assister là-bas à des séances, voilà, d'exercices, à leurs compétitions, ils relisent. Et j'ai appris plein de choses sur la gym. Et donc, c'est vraiment en coopération avec eux. Et merci à eux, au passage. L'avenir est bruitien. Et donc, je fais la pub pour l'avenir est bruitien, qui est un super club de gym.
Comment avez-vous découvert ce métier?
Bah, déjà, quand tu lis, tu sais qu'il existe des gens qui écrivent. Donc, voilà. Je l'ai découvert en lisant, très jeune, mais c'est tout, enfin, tu vois.
Est-ce que vous aviez fait un autre métier?
Ouais, alors je répète, peut-être.
Alors il y avait journaliste, alors je ne sais pas si on a fait tous
si,
les métiers.
Bibliothécaire, éditrice, journaliste, et après j'ai
toujours
écrit.
Dans l'écriture quand même à chaque fois.
Alors, exactement, en fait... Mais là non plus, ce n'était pas un calcul, c'est parce que profondément, les livres, pour moi, font partie de ma vie, quoi. Et depuis quelques années, j'ai repris des études et j'ai un autre métier. Je reçois des gens en psychothérapie et gestalt. Voilà, donc j'ai deux métiers, mais qui se répondent, qui sont des métiers de transmission tous les deux.
Combien avez-vous écrit de livres?
En fait, tu vois... Pourtant, j'ai fait des études de scientifiques, mais j'aime pas compter. Alors, si, j'en ai écrit plus de 200, mais pour moi, ça veut rien dire, en fait. Tu vois, c'est comme quand on me pose la question combien, je sais pas, quel est le livre qui se vend le mieux. C'est vrai que c'est important, que ça me permet de vivre. Mais pour moi, un livre qui débloque chez l'enfant l'envie de lire, qui tout d'un coup, c'est le déclic, c'est aussi important qu'un nombre. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, le sens, il commence pas avec les nombres.
Tout à l'heure, la question a été posée à Marie Voyelle, plus ou moins dans le même esprit. Et elle nous a répondu, bah, quand elle les étalait par terre, ça remplissait une pièce. Enfin,
l'entrée de sa pièce. Vous voyez, c'est une bonne réponse, j'aime bien.
Ben voilà, c'est une réponse qui n'est pas quantifiée, mais
c'est une jolie réponse.
Quand elle les a étalées, ça, elle pouvait marcher dessus et
c'est
elle avait un bel espace.
Ah, bah ouais. Tiens, j'essaierai.
Est-ce que aviez-vous tous les livres que vous aviez fait chez vous?
Oui, je garde toujours un exemplaire, sauf quand je donne le dernier et que j'en ai plus, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais j'essaye toujours de garder un exemplaire, parce que d'abord pour moi, et puis parce que parfois je peux m'y référer. Et puis par exemple, quand il y a une réédition, c'est-à-dire un livre est repris et il faut le mettre à jour, c'est important que je l'aie pour pouvoir voir, sur les élections par exemple. Là, on est en train de faire la mise à jour pour 2027. Parce que les chiffres donnés étaient de 2020. Donc là, c'est important que tu vois que j'ai la précédente version.
Quelle est votre inspiration pour l'esclave au grain de beauté?
Alors ça, c'était... je crois que ce qui me fait beaucoup réagir, c'est l'injustice. Depuis toujours. Et l'esclavage, c'est un truc que je trouve... Comment on peut réduire un être humain en esclavage? Et pourtant, ça existe toujours. Il y a un procès là, qui a eu lieu hier, avant-hier. C'est toujours sur la question de l'esclavage. Comment c'est possible qu'on réduise en esclavage un autre être humain? Pour moi, c'est un truc, là, je bloque. Donc, tu vois, je crois que c'est ça, surtout, mon inspiration. Elle vient de mes valeurs avant tout.
Quelle est votre inspiration pour Louise et Nicolas de Champclair?
Alors, pour le lieu, j'ai déjà dit, donc c'est Mystère à Versailles, c'est le lieu. Après, il s'agissait de trouver des personnages qui vous parlent à vous, les enfants. Donc, moi, j'aime pas écrire pour les filles ou les garçons. Donc, j'essaie que ça parle à tout le monde. Donc, dans ce cas, c'est pas mal de mettre un héros garçon et une héroïne. Surtout parce que les garçons... Alors, les filles peuvent lire... Ça, c'est des études sociologiques. Les filles lisent plus facilement tous les livres, quel que soit le sexe du héros. Pour les garçons, ça a l'air d'être un petit peu plus difficile. Donc voilà, j'essaye de mettre de quoi attirer l'intérêt de chacun.
Merci beaucoup Sylvie Bossier d'avoir répondu à ces questions des trois journalistes qui ont bossé le sujet. Dans la méthode, alors je vais tout vous dire et puis on le dit aux auditeurs, dans la méthode de préparation, en fait, on a posé les livres d'à peu près tous les auteurs et illustrateurs présents sur le festival et les jeunes se sont penchés tout seuls sur les auteurs ou illustrateurs qu'ils voulaient travailler. Certains ont travaillé tout seuls sur un auteur. Et vous, étonnamment, enfin étonnamment, pas étonnamment, mais vous, spontanément, voilà, c'était plus ça le mot, et, tout le monde s'est mis dessus. On a été obligé de réglementer même pour pas qu'on ait 15 intervieweurs. Ça a parlé assez rapidement.
Je suis très touchée. Et bravo à vous. Bravo beaucoup.
Merci beaucoup Sylvie Bossier.
Merci à vous.
Nous, on repart avec une transition musicale avant de recevoir à nos micros. C'est François Place que nous allons recevoir invité d'honneur de ce festival. Ben oui, j'ai perdu mon micro. Ah non, il était à mes pieds. Et Tad James. Voilà. Pour ceux qui écoutent Principe Actif régulièrement, ils savent que nous l'aimons en particulier. Nous sommes toujours en direct, en live et en public de la médiathèque Roland Plaisance à l'occasion du Festival de littérature jeunesse.
Ce qui est bien avec un physique comme le vôtre, c'est que vous n'avez pas à faire attention à votre ligne.
Un physique comme le mien ?
Ben, un physique de radio.
Ah oui, je me disais bien aussi.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Et on se fait des blagues entre nous parce que j'ai encore changé de micro. Nous recevons, c'est notre journaliste Lily qui est là. Ça va Lily ?
Oui, ça va.
Voilà, t'étais impatiente parce que toi tu passes à la fin en plus. T'avais une série d'interviews mais à la fin de l'émission, c'est ça ?
Je suis très triste.
Oh, ben rassure-toi, ça va aller beaucoup mieux. Nous recevons François Place. François Place, alors on est obligé de le dire, François, vous êtes l'invité d'honneur déjà de ce festival. Quand on a préparé cette émission avec les jeunes, on a dit c'est pas compliqué, on veut absolument avoir François Place. À titre personnel, c'est sur les illustrations somptueuses que vous m'avez eues il y a déjà un bon moment, de très très belles illustrations. Et Lily, elle-même, ça a évoqué des choses pour elle. Donc, je vous laisse, François Place, à la question de Lily. J'en poserai aussi Lily. Hein. Ouais, si, on l'avait dit. Ah bon, allez, c'est à toi Lily.
Bonjour. La Tour de Babel, c'est votre livre. Il utilise beaucoup d'arts différents. Et votre livre, il s'y intéresse beaucoup. Pourquoi ?
Bonjour, tu parles de la tour de Babel. Roi et reine de Babel.
Oui, c'est ça.
Donc, d'accord. C'est un album qui raconte l'histoire de la construction d'une tour qui est un petit peu comme une ville, un château, presque une civilisation. Voilà, donc c'est une dynastie de rois et de reines qui se sont emparés d'un rocher pour y construire, on va dire, leur propre pays. Voilà, c'est une sorte de métaphore sur une civilisation, l'histoire d'une civilisation.
Si je puis me permettre, à la préparation de l'interview, Lily avait repéré en fait cette histoire de chacun y mettait sa propre patte, sans ouais. chercher une cohérence ouais. Spécifiquement dans cette tour de Babel. C'est un des éléments qui l'a particulièrement marqué, Lily.
D'accord. Mais écoute, la tour de Babel, en fait, c'est un petit récit, c'est pas très grand dans la Bible, où il est question d'un roi qui aurait voulu construire une tour qui monte jusqu'au ciel pour rejoindre Dieu, en fait. Et Dieu, ça l'a mis en colère et il a détruit la tour et il a dit, puisque c'est comme ça, les hommes ne se comprendront plus, ne pourront plus se parler. Donc, dans la Bible, c'est l'origine du fait que les gens parlent des langues différentes. Et Babel, c'est l'emblème des traducteurs. Il y a une collection, par exemple, chez Actes Sud, qui s'appelle Babel parce que c'est une collection qui est vouée à toutes les littératures étrangères. Donc, c'est un récit très court, et moi j'ai eu envie de déployer l'histoire du roi Nemrod, ce roi qui a construit la tour, et de raconter qu'il avait eu des descendants. Et qui, voilà.
Si vous n'aviez pas été écrivain et illustrateur, qu'est-ce que vous auriez fait ?
Alors déjà, on peut toujours écrire et dessiner en loisir, c'est toujours une possibilité, chacun, ou faire de la musique ou autre chose, donc ça, pour moi c'est un moyen d'expression. Mais c'est vrai que depuis, on va dire, depuis que j'ai 14-15 ans, l'idée me trottait dans la tête de pouvoir faire mon métier, de faire des dessins dans les livres. Pour moi, je voyais ça comme ça. On fait des dessins dans les livres et puis on gagne sa vie avec. Donc voilà, j'ai eu envie très tôt de devenir illustrateur. Et auteur, c'est venu parce que je dessinais et puis que j'avais envie d'avoir des histoires pour mes dessins.
D'accord. Vos dessins, ils sont souvent... on dirait qu'ils sont à l'aquarelle. Est-ce que c'est vraiment de l'aquarelle ?
Oh oui, c'est les techniques qu'on appelle la peinture à l'eau. Tu peux utiliser de la gouache, de l'aquarelle. Et c'est une technique qui est très pratique parce que tu peux l'emporter partout avec toi. Tu vois, une petite boîte d'aquarelle, ça ne prend pas beaucoup de place. Ça ne demande pas beaucoup de matériel. Tu as besoin de pinceaux, un petit crayon peut-être, du papier. Voilà, et tu peux commencer à faire ton métier avec ça, avec une petite boîte d'aquarelle. Moi, je trouve ça assez génial. Si on fait de la photo, il faut énormément de matériel, tu vois. Mais l'aquarelle, ça demande trois fois rien.
Apparemment, il y a une exposition à côté.
À la Maison des Arts Solange Baudou, tout à fait.
Et on a deux tableaux qui sont faits à l'acrylique. Est-ce
oui.
que vous avez travaillé à l'acrylique aussi ?
Ben, c'était une tentative. J'ai essayé de faire quelques travaux comme ça à l'acrylique, mais ça ne me convenait pas. Pour dire les choses très simples, l'aquarelle, normalement le blanc qui est sur un tableau, ça vient du blanc du papier. Et puis on superpose des couches très transparentes les unes par-dessus les autres pour avoir des zones plus denses. Mais à l'acrylique, tu peux partir d'un fond très sombre et l'éclaircir parce que l'acrylique, quand ça sèche, tu peux revenir par-dessus avec quelque chose de beaucoup plus clair. À l'aquarelle, c'est difficile. Parce que les couches du dessous ont tendance à se mélanger avec celles du dessus. Je ne sais pas si c'est clair. Ça va ?
Oui, ça va. Est-ce que vous travaillez toujours tout seul ?
Oui, je travaille tout seul, mais je travaille avec des maisons d'édition. Donc, dans une maison d'édition, il y a des éditeurs, il y a des directeurs artistiques. Donc, il y a des gens qui conçoivent avec l'auteur la forme que va prendre le livre. Mais c'est un travail solitaire.
Si je puis me permettre, Lily, peut-être, c'est clair pour toi ce qu'est une maison d'édition, le rôle d'une maison d'édition ?
Oui, c'est publier le livre.
Tout à fait. Si tu veux, l'éditeur, il construit un peu son catalogue comme un auteur construit son œuvre. Mais lui, au lieu d'avoir plusieurs textes écrits par la même personne, eh ben, il essaie d'avoir plusieurs auteurs, plusieurs illustrateurs, illustratrices et autrices, parce que franchement, c'est un métier aussi qui est très féminin. Et donc voilà, il essaie d'avoir des gens différents, mais qui lui plaisent. C'est-à-dire qu'il faut que l'auteur et l'éditeur se plaisent. Tu vois, si ça ne matche pas, comme on dit, si on ne s'entend pas bien sur la direction artistique qu'on veut faire, bah, il vaut mieux aller voir un autre éditeur. Donc C'est des rencontres, en fait. Et une fois qu'on a trouvé l'éditeur avec qui on se sent bien, ben, on essaye d'y rester. Moi, c'est ça. Je suis relativement fidèle, quand même, avec les maisons d'édition.
Vos livres, ils sont souvent pour les grands-enfants, parce qu'ils sont un peu durs à comprendre. Et est-ce que vous avez fait des albums pour les plus petits ?
Eh bien, j'ai essayé, j'ai fait une petite série qui s'appelle Loupi Loufas, mais tu as raison, mes textes ne sont pas d'un abord immédiat. C'est pas de ma faute. Je cherche pas à faire des textes compliqués. Je cherche pas la complexité à tout prix. Je cherche pas une syntaxe très élaborée. Mais ça vient comme ça. Ça vient et il faut que le texte garde quand même son empreinte première, la façon dont tu l'as envoyé sur l'ordinateur ou sur le papier. Il faut que ça garde cette empreinte là, comme le dessin. Donc je le modifie de temps en temps pour simplifier des choses, mais je veux que ça reste aussi comme je l'ai imaginé. Alors c'est oui, pour des enfants qui ont à peu près 10 ans la plupart du temps, et puis ça plaît à pas mal d'adultes.
Comment vous travaillez, comment vous écrivez vos livres un peu ?
Il y a tellement de façons de faire. Il y a des livres auxquels je pense pendant des années, mais qui ne voient pas le jour, et puis un jour il y a un déclic. Il y a des livres qui ont presque été des livres de commande. Par exemple, Le Prince Bégayant, c'est une compagnie de danse qui est venue me demander un conte pour être dit sur scène par une conteuse avec deux danseurs et une danseuse qui devaient... Alors, j'ai imaginé ce conte du Prince Bégayant parce que c'était un peu l'époque de la breakdance et je me dis, on peut bégayer avec le corps et on peut peut-être trouver un conte qui joue sur le rythme de la langue pour être un conte qui peut être dansé en rythme. Donc j'ai imaginé ça. Et c'est devenu un album quelques années plus tard parce que je dis, mais il est bien ce texte en fait. Et au départ, c'était juste un texte offert pour une compagnie de danse. Mais je me suis dit, mais non, on peut ça raconte une histoire intéressante. Intéressante pour moi. Hein. Après, si ça plaît à d'autres gens, c'est tant mieux.
Si vous avez fait un livre sur la Tour de Babel, c'est que ça vous intéressait, le thème ?
La Tour de Babel, c'est une fascination que j'ai pour un tableau d'un peintre qui s'appelle Bruegel, qui est un peintre du XVIe siècle, la Renaissance flamande, et qui est un des premiers à avoir tenté de décrire cette tour qui est dans la Bible. Et en fait, il a fait un tableau invraisemblable, où il y a toutes les techniques de construction de son époque qui sont sur le tableau. Et surtout, on voit que la tour est en train de se construire, mais par endroits, elle tombe déjà en ruine. Donc c'est un peu comme si, dans un tableau, il avait rassemblé deux ou trois siècles de l'existence de ce... C'est même pas un bâtiment, c'est presque un monde qui est bâti sur un rocher. Et je me dis, c'est donc la peinture qui permet de concasser le temps, de le rassembler en une seule image. Et donc moi, je me suis dit, j'avais tellement de goût pour ce tableau, j'ai fait des copies, je l'ai scruté dans tous les coins... Je dis, moi, j'ai envie de déplier ce temps et de dire, effectivement, si ça a duré plusieurs siècles, je vais inventer les rois et les reines qui se sont succédés dans cette tour.
Donc, les rois et les reines de Babel, ils n'ont pas vraiment existé. Enfin, dans votre livre, ils n'ont pas vraiment existé.
Ils ont existé dans mon livre. Hein.
Et est-ce que vous pouvez nous parler d'autres livres que vous avez écrits ?
Alors, je peux parler, par exemple, d'un livre qui... Dans cette exposition, il y a trois salles. Dans l'exposition de la Maison des Arts, il y a trois salles. La salle du milieu, elle est consacrée à l'Atlas des géographes d'Orbae, qui est un atlas que j'ai imaginé en partant de l'alphabet, en imaginant que chaque lettre de l'alphabet est un pays, donc pays des Amazones, pays de Baïla-Baïkal, etc., jusqu'au pays des Isotles. Et pour chaque lettre de l'alphabet, j'ai imaginé une histoire pour visiter ce pays. Et je l'ai complété par une planche encyclopédique sur les costumes, les animaux, les plantes. Donc, tu vois, c'est 26 fois cet exercice d'imaginer un pays. Et ça m'a pris beaucoup de temps et ça m'a beaucoup plu.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Lily.
Merci, François Place, d'être passé par nos micros et d'avoir répondu aux questions de notre journaliste Lily. Lily, tu restes avec nous parce que c'est toi qui termine l'émission. Tu as encore deux interviews, hein, je ne dis pas de bêtises. Eh bien, super. On suit une petite transition musicale assez courte, histoire d'accueillir notre invité qui va être Jérémy BM. Ça va. Bah oui, ça va. C'est The Olympian qui nous font les petites transitions. Moi, je sers que à décorer le plateau. Vous l'avez bien compris depuis tout à l'heure. Nous avons notre équipe de journalistes qui pose la question. Finalement, ce sont les experts de la littérature jeunesse. Ce sont les jeunes lecteurs. J'ai toujours Lily avec moi. Toujours prête, Lily, hein? Ben oui, voilà, c'est ça. Et nous a rejoint sur le plateau Jérémy BM, qui a démarré en tant qu'auteur de polar adulte, qui est gentiment arrivé sur la littérature jeunesse autour d'un monde, on va dire, je cherche mes mots, fantastique ou horrifique. C'est là donc qu'on va retrouver Jérémy, mais pour le moment, je vais laisser Lily à la question.
Bonjour.
Et bonjour Lily.
Votre livre Le loup parmi nous, il fait partie d'une collection, c'est la collection Hantée, qui a été créée pour les enfants de 10 à 13 ans pour avoir peur. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre Le loup parmi nous ?
Eh bien, donc moi, je suis chez Casterman depuis un certain temps déjà, et c'est mon éditrice qui m'a orienté là-dessus, parce que moi j'ai une certaine tendance à aimer la littérature horrifique, justement. J'ai grandi avec la littérature horrifique, Stephen King notamment. Et du coup, je n'avais jamais écrit de livre un peu effrayant. Et je me suis dit, oui, c'est dommage, parce que moi j'aime bien un peu toucher à tout. J'ai fait de la fantasy, j'ai fait du conte, j'ai fait du polar, pour adultes ou pour plus jeunes. Et je me suis dit, c'est le moment aussi d'essayer cette nouvelle chose. Et du coup, je me suis orienté directement sur ce nouveau format, et je me suis régalé. Je me suis vraiment éclaté à faire ça. Je l'ai écrit rapidement, en plus, en à peine 2 mois. Donc, c'était une belle aventure.
Et donc, comment on fait pour que notre livre soit publié dans la collection Hantée ?
Moi j'avais déjà la chance d'être déjà édité chez Casterman, donc du coup ça s'est fait assez naturellement. Donc faut proposer, c'est un peu un travail de toute façon. L'écrivain, c'est toujours un travail de patience, de longue haleine, de poster. Moi c'est ce que j'ai fait, même avant d'être connu et avant d'être édité. J'ai envoyé manuscrit sur manuscrit, ça a été long, et puis finalement un beau jour, c'est la patience qui est très importante dans le métier d'écrivain. Si tu as envie d'écrire, il faut absolument que tu t'armes de patience et que tu saches écrire ici, évidemment, ça c'est la moindre des choses. Mais voilà, en tout cas moi c'est ça, la patience et la passion, parce que j'ai été persuadé que c'était ce pourquoi j'étais fait depuis longtemps, même plus jeune que toi encore. Du coup ça fait très très longtemps que j'ai le désir d'écrire, donc il faut, pour être édité, il faut être patient et avoir un peu de chance aussi, parce que tout n'est pas toujours lu dans les maisons d'édition, donc c'est un peu un mix de tout ça, quoi.
Si vous n'aviez pas été écrivain, si le métier d'écrivain n'existait pas, vous auriez fait quoi ?
C'est une bonne question, ça. Moi, j'ai toujours voulu être écrivain, toujours raconter des histoires, notamment. Quand j'étais gamin, j'avais un petit carnet. Je lisais beaucoup de livres dont vous êtes le héros, c'est-à-dire c'est des livres-jeux, je ne sais pas si tu connais ou pas, ça revient d'ailleurs fort aujourd'hui. Et du coup, j'avais décidé de faire la même chose, mais avec mes potes. Du coup, pendant les récrés, je leur racontais des histoires personnalisées. Et donc, du coup, vu que ça plaisait beaucoup, j'avais un petit carnet sur lequel je notais la liste de mes amis en fonction. Donc, au fur et à mesure, ils passaient les uns après les autres, tu vois, pour que je leur raconte leurs propres histoires. Et du coup, voilà, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu raconter des histoires et par la suite être écrivain. Après, j'ai eu plein de rêves. Hein. J'ai même voulu être cosmonaute pendant un moment. Mais j'ai vu les études qu'il fallait faire, le boulot qu'il fallait abattre pour entrer là-dedans. Et je me suis très, très vite. Je suis très vite passé à autre chose. Dans le rêve toujours, mais le rêve un peu plus imaginaire, quoi.
Le roman pour faire peur, pourquoi vous avez choisi un roman pour faire peur et pas autre chose?
Du coup, c'est ce que je t'expliquais au début, c'est-à-dire que, en gros, ça faisait longtemps que je lisais de la littérature terrifiante et j'avais vraiment envie de faire ça. Du coup, ça c'est. Et comme je l'avais jamais fait, je me suis dit, effectivement, et quand ils m'ont proposé, bingo, faut que j'y aille absolument parce que c'est un univers que j'adore, donc il n'y a pas de raison que je fasse pas ça aussi, quoi.
Vous avez écrit d'autres livres de nature horrifique ?
Horrifique, non, c'est justement le premier. Par contre, ça m'a tellement plu que j'exclus pas, dans un avenir proche, d'en écrire d'autres. Et pourquoi pas dans la même collection, d'ailleurs.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'écriture ?
Oh, il y a tellement de choses. C'est un voyage, l'écriture. Ça permet de s'évader, d'endurer les petits soucis du quotidien. Il y a tellement de raisons pour moi, c'est tellement riche. Puis, comme je t'expliquais, c'est vraiment ma passion, c'est vraiment la chose que j'ai trouvée, que j'avais le désir de faire depuis. J'ai eu la chance de le trouver très tôt, cette chose-là. Et je pense que tout le monde est fait pour quelque chose en particulier, peu importe que ce soit l'écriture ou autre chose d'ailleurs. Et c'est important, je pense, encore plus aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de vraiment cultiver cette passion, parce que ça permet tellement de choses. Ça permet de cultiver l'espoir. Ça permet quand tu trouves ta passion, quand tu trouves ce pourquoi t'es fait, t'es heureux quoi qu'il arrive. Et même s'il arrive des choses dans ta vie qui sont pas toujours roses, mais c'est chouette, ça te permet de tout surmonter, quoi. Moi, c'est en tout cas l'écriture, ça a été le cas, quoi.
Est-ce que vous écrivez encore pour les adultes ?
Alors non, aujourd'hui, je n'exclus pas du tout dans le futur de revenir à cette littérature-là, mais en fait, je me sens bien, moi, dans la littérature ado ou enfant, d'ailleurs. Voilà, c'est peut-être par mon ancienne activité de conteur aussi, où j'ai beaucoup fréquenté les enfants, voilà. Et c'est, moi-même étant un grand enfant, je pense un peu aussi, j'adore ce contact, j'adore cette relation au plus jeune, quoi, je me régale, quoi.
Est-ce que votre grand-père, il était écrivain ?
Oui.
Est-ce que vous avez lu ses romans ?
Ah oui, je les ai tous lus, et je suis très fan, évidemment. Bon, moi, je suis pas très objectif parce que je suis de la famille, mais j'ai toujours adoré son côté un peu décalé, un peu. D'ailleurs, j'ai un des livres pour adultes que j'avais écrit, c'était une adaptation de son scénario. C'est quelque chose qu'il m'avait proposé de faire de son vivant, d'écrire un livre ensemble, que ce soit un recueil de nouvelles ou même un vrai livre ensemble, enfin un vrai livre, pardon, un livre plus structuré, mais ça n'a pas pu se faire. Et du coup, quand j'ai été édité, les éditeurs m'ont proposé un scénario qui dormait dans leur tiroir depuis longtemps et qu'ils avaient le désir de voir en livre, et j'ai un peu sauté sur l'occasion. Je me suis dit c'est chouette, c'était une occasion de travailler avec lui, mais à travers le temps, quoi. Ce que j'avais pas pu faire à l'époque de son vivant.
Et pourquoi vous avez changé subitement de public, d'adulte jusqu'à enfant?
En fait, ça n'a pas été subitement, ça s'est fait progressivement. D'ailleurs, j'ai commencé par le domaine adulte. On m'a dit que j'avais une plume, justement. Il y a plusieurs éditeurs qui m'ont dit que j'avais une plume qui était susceptible de s'adresser aux plus jeunes. Et donc, du coup, je suis progressivement passé au young adulte, donc 14-15 ans. Et puis, je suis descendu petit à petit. Et du coup, là, maintenant, je monte, je descends. Mais parce que oui, moi, je m'amuse vraiment à être au contact de ce public-là. Je pense que je suis un peu fait pour ça aussi.
Vous avez dit que vous étiez passé par tous les thèmes de livres.
Beaucoup, pas tous, mais beaucoup, oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres livres ?
Que j'ai fait, moi ?
Oui.
Ah bah, j'ai fait un livre de littérature héroïque fantasy. Je suis très fan, moi, du Seigneur des Anneaux, par exemple. C'est un de mes livres de chevet depuis toujours. J'ai fait du polar aussi, avec des enquêtes un peu noires de personnages qui... voilà, mon ami Arnie, par exemple, c'est là que j'ai débuté pour les plus jeunes, enfin pour